15h30, dans les couloirs de France Inter, Charline et Alex ont entendu du bruit à travers la porte du bureau de Chewbacca.
Salut Chewbacca !
Ça va les osions ? Ouais. Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous traînez ? Vous êtes encore perdus ?
Bah non, c'est bientôt la fin des florilèges.
Bah on laisse pas tomber les auditeurs pendant les vacances, nous.
Qu'est-ce que vous voyez, je fous, moi, les asticots, là ? Moi aussi, je suis là, moi, avec mes disques, là.
Oh là là, ouais, on se croirait dans Alice au Pays des Merveilles, tous ces disques, là !
J'ai plutôt l'impression qu'on est dans un film d'horreur.
Bouf !
Ah !
Bah, c'est mon antre, c'est ici que je programme.
Ouais, moi, j'appellerais plutôt ça une salle de torture, mais...
Ouais, dis donc, j'ai vu une souris, là !
Une quoi ? J'ai peur, non, j'aime pas ça.
Mais c'est ma pote, c'est Micheline. 3 cm avec plein de poils et tout, elle est sympa. Hein. Surtout en ce moment, comme il n'y a personne dans les couloirs, je te signale qu'elle va dans le bureau de Jupiter.
Non.
Si. Et tu sais quoi ? Elle mange le 45 tours de Michel Tarr.
Si elle touche à mes disques de Michel, ça va très mal se passer.
Non, mais attends, elle a un inconnu des chanteuses à voix, Micheline.
Ah bon ?
Oui, mais en ce moment, tu vois, elle kiffe. Mary Popkins, une crooneuse du fin fond de la Louisiane, atteinte de polio. Ouais, en 86, ben justement, elle était serveuse dans un bar du Michigan. J'ai raconté ça quand même un jour, quoi. Et là, elle rencontre Billy Bob Johnson.
Ouais, alors, Jube, on va y aller, nous, quoi.
Non, mais attendez, j'ai pas fini mon histoire.
Non, mais on va te laisser avec Micheline, c'est
voilà, bon. Et moi, je retourne voir Michel.
Parce que vous savez pas, mais en 89, elle lui présente Sidney Connor, un trompettiste manchot du Tennessee.
Après, il est parti boire un whisky. Et quand il est revenu, pape, Jean Coupé.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui verse le rhum de la blague dans le grog de l'actualité. Je serais même tentée de parler de rhume de la blague en ce moment, hein Alex. Quant à nos invités, ils sont aussi classieux et pétillants comme du champagne. Anna Bouglalis parlera avec nous du vocabulaire employé pour parler des réfugiés. Est-il approprié de parler de vagues migratoires quand c'est précisément eux qui se noient ? Un thème sur lequel elle s'est engagée et justement nous lui avons soumis cette autre question. Est-ce que signer une pétition, c'est un engagement ou un engagement un peu paresseux ? Cette discussion s'est achevée dans un sketch où on a exploité le ressort de la voix d'Anna Mouglalis.
Oh là.
Avant qu'elle ne se laisse, avant qu'elle laisse sa place, pardon, à un chanteur, Alex Baupin, il est venu au lendemain de l'attentat à la préfecture de police de Paris et il a partagé avec nous son point de vue sur la façon dont on vit avec la menace terroriste. C'est d'ailleurs un thème qu'il aborde dans son nouvel album. Ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles les chansons qu'écoutent les moins de 25 ans sont moins joyeuses que celles qu'écoutaient les baby boomers. Notre playlist trahit notre âge, tandis que la playlist France Inter trahit le climat social, Radio France.
Ok, boomer.
Allez Alex, vous avez choisi la crème de la crème de la chronique.
Que les meilleurs, Pablo Mira, malheureusement, parlera de l'islam. Voilà, toujours une belle thématique pour lui. Guillaume Meurice est allé voir les punks du bon marché. Mmh. Et Hippolyte Girardot a pris cette chronique pour en faire une lui-même. On rebondit les uns sur les autres dans cette émission. C'est merveilleux. Et on termine par Frédéric Fromet qui ce jour-là était en duo avec Flavia Coelho pour chanter Bolsonaro.
Ouais, le bon marché de Guillaume, le bon marché, le grand magasin parisien.
Le grand magasin parisien.
Pas le marché. Ah voilà, c'est pour ça que c'est punk.
C'est la belle enseigne.
Je l'avais pas.
Voyez-vous.
Allez, en ce deuxième jour de l'année où l'ambiance est un petit peu fraîche dehors, on a deux invités très chaleureux. Alors on va se réchauffer avec la voix et l'esprit déjà d'Anna Mouglalis.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Anna Mouglalis.
Merci.
Nous sommes très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Et on peut passer aussi en votre compagnie un excellent moment devant Mademoiselle Julie, la pièce d'August Strindberg, avec vous, avec Xavier Legrand et Julie Brochen qui d'ailleurs assure la mise en scène. C'est au Théâtre de l'Atelier où s'est rendu Alex Vizorek pour vous voir.
Mais oui Charline, effectivement, j'avais vu Art et puis j'ai vu Mademoiselle Julie. Franchement, c'est les deux meilleures choses que j'ai vues depuis la rentrée. Strindberg avec vous Anna Mouglalis. Et je vais essayer donc de bien vendre la pièce. Du coup, j'ai une première question. Attention, ça c'est très très vendeur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce sadomasochiste ?
Oui.
Bah oui. C'est vendeur, hein, comme ça.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un ring, une espèce de combat. Le sexe est au cœur de la pièce. Mais il y a eu des mises en scène qui appuyaient beaucoup là-dessus. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours la possibilité de l'amour entre les deux personnages. Si c'est joué vraiment comme un combat perdu d'avance, bon, c'est dommage que ça dure une heure et demie.
C'est quand même le championnat du monde du pervers narcissique, les deux.
Non, 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 je suis pas complètement d'accord. Non, parce que en fait, les deux se cognent surtout contre les conventions sociales. Et c'est pour ça que la pièce, elle est d'une actualité folle, que ce soit, enfin, sur voilà la lutte des sexes, parce que bon, il faut l'admettre, c'est quand même vraiment la guerre. Et la lutte des classes, ben, ça continue.
Surtout ça, parce que vous êtes maîtresse, pour garder les termes adaptés, et votre valet, vous avez envie de le séduire, parce que lui essaye de refuser au départ, parce qu'il sait que c'est peut-être pas une bonne idée, et puis pour finir, eh bien, se passe ce qu'il peut se passer. Vous dites que c'est d'une actualité folle, parce qu'après, évidemment, vous avez fauté, et donc il faut trouver une solution. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile, c'est plus possible? Ça, cet amour entre la lutte des classes.
Vous voulez dire entre deux classes différentes?
Oui, parce que
je pense que c'est toujours compliqué. Non, vraiment, je pense que c'est toujours compliqué. De toute façon, le fait que le corps de la femme puisse lui appartenir, c'est encore hyper compliqué. Ça a vraiment pas beaucoup bougé.
Alors, le corps de la femme peut lui appartenir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Non, mais justement, en fait, c'est ce qui est incroyable dans cette pièce qui date quand même du 19e. C'est une pièce qui montre une femme désirante. D'ailleurs, alors, ça a fait scandale, ça a été censuré, on y parle des règles. Non, mais c'est incroyable parce que Strindberg, en plus, on en a fait un misogyne fini, alors que bon, la pièce n'est pas ça. Il y a de la misogynie dedans, mais elle est folle. C'est un chef-d'œuvre absolu.
Bah, c'est deux fauves dans une arène. C'est un match entre les deux. Après, il y a un troisième rôle qui
peut-être la
personne qui est la humainement la plus acceptable pour nous spectateurs.
La plus acceptable, ah bon.
Ouais, j'ai trouvé. Enfin, c'est pas contre vous, hein.
Je sens qu'il y a une différence d'interprétation entre vous.
Non, bien sûr.
Il a pas eu le même spectacle.
Bien sûr. Mais elle incarne. En même temps, elle cite comme ça des passages de la Bible, un petit peu tout le temps. Elle incarne celle qui se soumet aux conventions. alors que les deux autres vont se cogner contre les murs des conventions. Mais souvent, en fait. Les mademoiselles Julie qui ont été présentées, on les voit comme déjà elles se retrouvent dans une domination terrible, domination masculine, et puis là comme c'est la fille du comte, elle n'a aucun droit. Mais on les représente la plupart du temps comme des filles introverties. Je parle de toutes les différentes mademoiselles Julie. Et là on s'est offert la liberté d'un personnage extraverti. Je trouve que c'est encore plus violent quand elle se prend le mur des conventions. Satellite's gone up to the sky. That drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Lou Reed, Satellite of Love, c'est là où Anna Mogali s'est un petit peu envoyée à Alex Vizorek. Alex, vous êtes là?
Où ça? Je ne vous entends pas.
Vous êtes sur France Inter.
Ah oui.
Anna Mouglalis avec nous, et on va parler d'un philosophe et d'une écrivaine qui accueille des réfugiés et qui propose de regarder l'immigration en face. Et en face, ça veut dire aussi par les mots employés. Les partisans du rejet nous parlent de flux, de courants, de vagues, de submersion migratoire, quand ceux qui se noient, les poumons remplis d'eau, eux sont des réfugiés. Le noir, je l'ai vu dans son jardin.
Attends, Fabienne, de qui tu parles, là?
Le voisin, le noir.
Enfin, tu pourrais t'exprimer autrement, quand même.
Enfin, tu comprends pas? J'ai vu le noir, le voisin.
Oui, si, oui, j'ai très bien compris, je t'ai bien pris, mais justement, c'est ça que je te reproche.
Enfin, bonsoir, ne le fais pas exprès, quoi. J'ai vu le noir, monsieur le noir. Je l'ai vu dans son jardin, tu vois de qui je parle, là?
Oui, voilà, monsieur le noir. Plutôt que le noir, je préfère ça, oui.
Bon, bah alors, monsieur le noir, plutôt que le noir, si tu veux, creuse un trou dans son jardin.
Et alors?
Il creuse un grand trou dans son grand jardin.
Et alors?
C'est un malade. Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. C'est un article à lire dans les Inrocks. L'écrivaine Marie Cosnet et le philosophe Mathieu Pot-Bonneville publient un livre qui s'intitule Voir venir sur la nécessaire hospitalité. Alors, ils accueillent des migrants et aussi ils prêtent attention aux mots qui sont employés. Donc, comme j'ai dit, ils ont remarqué effectivement qu'on parle de flux, de courants, de vagues. Pour ceux qui sont démagogues et nous disent qu'on est submergés, alors que ceux qui sont submergés sont quand même les migrants. Vous aviez prêté autant d'attention au vocabulaire employé. Nous, ce matin, on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Est-ce que tout le vocabulaire autour de ce drame humain, est-ce que vous le regardez avec acuité?
Il y a un petit livre qui s'appelle « La langue de la Ve République » de Hazan.
Ouais.
Qui est formidable, qui date hein, déjà, mais pendant longtemps on parlait de la question palestinienne, maintenant c'est devenu le problème palestinien. On voit bien qu'il y a une question, il y a plusieurs réponses. À un problème, il y a une solution. Ça semble être juste des mots, mais c'est en fait les mots sont, la parole est vraiment active, performative, et elle conditionne complètement les gens. Donc c'est à travers ces glissements de vocabulaire, on désinforme. Et c'est incroyable, parce qu'on a tous été, en fait, complices des drames en Méditerranée. L'Europe a décidé de confier de l'argent, en fait, à la Libye. L'Europe ne peut pas confier de l'argent à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Et plus personne ne sauve les migrants en mer. Alors, heureusement, SOS Méditerranée est reparti. Bon, il y a plusieurs associations qui sauvent des migrants en Méditerranée, mais qu'on empêche de travailler normalement.
Et qui sont criminalisés aussi.
Voilà, mais même les bateaux commerciaux sont normalement obligés, quand il y a un signe de détresse, d'aller secourir les gens. Ils ne le font plus, parce qu'une fois qu'ils chargent les migrants à bord, il le sait, mais une fois qu'ils se retrouvent avec les migrants à bord, il n'y a pas un seul port qui leur donne l'autorisation de débarquer, donc ils se retrouvent avec leur cargaison bloquée, ils perdent. Enfin, donc ils ne s'arrêtent plus. Donc on laisse mourir les gens.
Vous allez finir chroniqueuse sur France Inter.
C'est vrai.
Je parlais trop.
Non, pas du tout. Comme quoi, on a bien fait de choisir ce sujet avec vous. Et effectivement, vous choisissez les mots. Anna Mouglalis avec nous. Sans transition, il est l'heure de passer la parole à celui qui, selon ses propres mots, n'est pas raciste, car il a voté pour Ramel Bent en 2004 à La Nouvelle Star. C'est vous, Pablo Mira.
Final.
Et Pablo, vous avez décidé de nous donner, une fois de plus, je dirais, votre point de vue sur l'islam.
Ouais, ma louloute, il est grand temps de dire tout haut ce que tout le monde dit encore plus haut sur CNews, LCI et Sud Radio. Il y en a marre de l'islam dans ce pays. Un islam de la provocation, avec cet énième épisode au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et cette maman voilée qui a perturbé la séance en oubliant de perturber la séance. Comme 157% des Français, sa présence m'a profondément choqué. D'ailleurs, Charline, Julien Odoul, l'élu RN qui l'a interpellé, l'a très bien rappelé sur Twitter. Comment cette femme a-t-elle osé se montrer voilée quelques jours seulement après l'assassinat de 4 policiers à la préfecture de police? C'est intolérable.
C'est quoi le rapport entre un voile et un attentat terroriste, Pablo?
Parce que maintenant, il faut avoir un rapport pour stigmatiser l'islam. Non. Et dire que vous êtes payé avec mes impôts, Charline. D'ailleurs, mes impôts qui me servent moi-même à me payer. Pendant cette chronique, je gagne ou je perds de l'argent? Je suis perdu. Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Je ne sais plus. L'islam. Oui, l'islam, pardon. L'islam est un danger public. Je vous rappelle que depuis 6 ans, 59 attentats ont été déjoués en France. 60 si on compte celui qu'on a évité en empêchant Alex de manger indien ce midi à la cantine. Alors, à défaut de pouvoir interdire cette religion, je pense qu'on peut au moins interdire le port du voile, car le voile tue. Si, si, vous avez vu les dégâts qu'il provoque sur la tonicité des cheveux. À chaque fois qu'une femme enfile un hijab, c'est un employé de Jean-Louis David qui meurt. Il faut donc lutter contre cette arme démoniaque. Sur LCI, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, a déclaré que lorsqu'il voyait une femme voilée dans son bus, il descendait. Et il a raison. Il a raison. J'ai vécu la même chose, moi, le mois dernier. En revenant des Antilles, qu'est-ce que je vois dans mon A380? Une femme voilée. Je suis descendu de l'avion. Alors oui, je suis mort en sombrant dans l'Atlantique, mais au moins, j'ai défendu mes valeurs. Donc, stop au voile. Il faut le bannir, tout simplement. Alors, Charline, je vous vois venir. Vous allez me dire, et les bonnes sœurs qui sortent dans la rue avec leur voile catholique, là? Eh bien, je vous répondrai en 5 mots, Charline. La régie, coupée son micro. S'il vous plaît. 6e mot. Et quand on est poli, on respecte les règles où l'on est invité et on demande pas grand chose. Nous, on demande juste que les musulmans français fassent l'effort de détester leur religion. Mais non, au contraire, les musulmans se radicalisent. D'ailleurs, j'invite les Français à signaler les musulmans radicalisés, également appelés les musulmans. En fait, c'est la même chose. Mais pour ça, faut apprendre à détecter les signes de radicalisation. Par exemple, quelqu'un qui refuse systématiquement de parler français, un migrant, un nourrisson, un ours, hop, signalé. Un collègue qui ne boit plus d'alcool, c'est également un signe. Moi, je vous dis, par exemple, je vois ce week-end, j'ai bu que de la Badoit, et bien j'étais à ça d'acheter des babouches. Comme quoi, la radicalisation, ça va très vite, Charline. Soyez vigilants, donc, les amis, ils sont partout. Même ici, à Radio France, Charline, on a un des employés du service informatique qui a refusé de serrer la main à une femme. Encore un signe, vous voyez.
Vous parlez de Thierry ?
Oui, Thierry, exactement. Oui.
Pablo, mais il est aveugle, il voit pas quand on lui tend la main.
Oui, bon, lui, il a de la chance. Mais on pourrait aussi parler de Chantal. La Conta qui est complètement voilée.
Mais,
complètement voilée.
Mais c'est à cause de sa chemise, ça, Pablo?
Bon, allez, tout ça pour dire qu'un musulman radicalisé, c'est quoi? C'est un individu qui refuse de vivre comme un Français normal. Donc un musulman radicalisé, c'est un patron du CAC 40. Voilà. Pour conclure, tous les 6 mois, on a droit à des débats sur le voile, les musulmans de France, la place de l'islam. Des débats qui divisent les Français et entretiennent la haine de cette religion. Mais heureusement, les choses vont enfin changer, car grâce à l'arrivée de Zemmour en quotidienne sur CNews, le débat, ça va être tous les jours.
Pablo Mira, sur France Inter. En compagnie d'Anna Mouglalis. On va vous soumettre cet autre sujet qui passionne Guillaume.
Parce qu'il a
le poignet facile.
Alors,
est-ce qu'il, oui, mais voilà, non. Ouais. Est-ce qu'il suffit de signer une pétition pour s'engager?
Oui.
Est-ce un activisme paresseux que de signer pour les dauphins des îles Féroé entre un tweet et une commande de sushi? Cela dit, la signature laisse une trace, contrairement à notre anonymat au milieu d'une foule de manifestants. Si l'engagement ultime c'était de signer une pétition, le prix Nobel de la paix serait effectivement attribué chaque année à Juliette Binoche ou Guillaume Meurice.
Je signe tout, moi, des deux mains, des deux pieds, en cursive, en gothique, en caractère d'imprimerie. Je signe la Somalie somalienne, je signe Wurtembourgeois de Vladivostok à Gibraltar.
Francis Blanche, dans Des pissenlits par la racine, film de Georges Lautner, dialogue de Michel Audiard. Nous avons trouvé ce sujet dans le tout nouveau magazine La Croix, qui a effectivement approfondi le sujet par rapport aux autres sur signer une pétition et s'engager. Alors déjà, signer une pétition pour le Quidam et signer une pétition quand on a de la notoriété, c'est peut-être pas pareil. Quand vous signez une pétition, vous regardez à deux fois si toutefois vous en signez, Anna Mouglalis.
J'en signe.
Ouais.
J'en signe. Après, enfin, c'est la croix, mais on ne demande pas d'être des anges non plus. C'est le début d'un engagement. Mmh. Je trouve assez intéressant que, voilà, de sortir de l'anonymat. Et il se trouve que certaines, enfin, change.org, là, a quand même des résultats. C'est-à-dire que ça devient une façon aussi de communiquer. C'est devenu un média, en fait, à part entière. Ouais. Moi, il y a plein de choses dont j'aurais pas entendu parler, et grâce à ça, je suis au courant. Donc oui, je signe. Et quand, voilà, quand d'un coup ça s'emballe sur change.org, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, SOS Méditerranée, d'ailleurs, j'avais commencé, moi, ouais, avec une pétition, puisqu'on les empêchait de bouger, que le bateau avait été confisqué. Ouais.
Et là, ils sont repartis avec un nouveau bateau, d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Ils ont besoin de 11 000 euros par jour pour sauver les gens en mer.
croisière. Et donc, c'est facile, c'est sur le site de SOS Méditerranée.
Cher aussi une croisière.
Passons, il y a une chute j'espère à ce sketch.
Toujours ouais. En fin d'émission, Anna Moulalis, nous proposons un sketch à l'invité pour qu'il joue avec nous. Alors, on vous a mis dans votre propre rôle, il y a toujours un lien avec l'actu. Peut-être vous avez entendu que le Théâtre du Châtelet allait lancer son propre parfum, qui s'appelle Acte 1, qui sent un petit peu l'odeur que devrait sentir le théâtre. Eh bien, une boîte de com, dirigée par Charline et Guillaume, vous a engagé parce qu'ils ont d'autres odeurs à vous proposer.
Bon, Anna, bienvenue dans la team Paris sans bon.
Ouais, alors nous on fait la pub de Paris à travers ses odeurs. Hein.
Bah oui, Paris c'est le luxe, la mode, le parfum.
Ouais, mais c'est pas que ça. Bon, Anna, alors je vais pas te mentir, t'étais pas notre choix numéro un sur la liste.
Ah bon? Mais il y avait qui?
On avait d'abord pensé à Patrick Balkany.
Voilà, mais il est pas dispo.
Ouais,
en fait.
Il fait une pause carrière.
Voilà, donc si Balkany est pas dispo, normal, on se retourne vers toi, quoi.
Merci beaucoup, vraiment.
Alors notre premier produit, c'est le parfum d'une salle de spectacle.
Pléiade? L'Olympia?
Non, le point virgule.
Le quoi?
Ouais, c'est le petit théâtre de 85 personnes là où on peut vendre 160 places.
Voilà,
vois,
c'est une fragrance plutôt sauvage et populaire, on va dire.
Hein? Mais ça sent bon?
Alors on est sur des nuances de calembour et de porte qui claque.
Ah, mais ça veut dire. Ça veut rien dire, pardon, ça.
Oui, c'est une pub pour du parfum, quoi. Donc,
ouais, alors voilà le texte. Alors attention, vous êtes prête? Alors à vous, musique!
10 camions? Quoi? Pouette, pouette? Je suis une femme comme les autres. Je fais tourner les serviettes. Quelle odeur. Mon parfum. Point virgule. Pareil.
C'est excellent, c'est exactement ce qu'on cherchait.
C'est super, ça marche tellement bien. On va te proposer une autre fragrance. Là.
Oui, alors c'est un truc bien parisien. Hein.
La Tour Eiffel.
Non, ça s'appelle Ligne 13.
Hein, vous êtes sûr?
Certain, l'odeur du métro, c'est une Madeleine de Proust pour les Parisiens.
Ouais, on est sur des nuances collées serrées de gens qui claquent, tu vois.
Ouais. Ah ouais, quand même. Bon, bah allons-y.
Ouais, alors voilà le texte. Allez, à vous, musique.
Éloignez-vous du quai. Approchez-vous de moi. J'aime la sueur. Le bruit du strapontin. Pardon, pardon, laissez-moi sortir. Regardez-moi. Mon parfum. Ligne 13.
Oh là là, c'est exactement ce qu'on cherche.
Bon, allez, une dernière fragrance à te proposer.
Ah ouais, ça va être quoi maintenant? Les toilettes de TGV?
Non, c'est bien mieux. C'est le lieu parisien où vont toutes les stars.
C'est quoi? Voilà. Par Jupiter?
Non, on est plus sur un lieu d'échange et de partage.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est le club libertin, les chandelles.
Quoi?
Ouais, on est sur des nuances talons-aiguilles et le pot qui se touche, quoi.
Ouais, bon, j'ai compris.
Voilà le texte, musique, allez hop.
Vous êtes qui? Pardon, c'est pas vous que je cherchais. Vous êtes une femme? Pardon, messieurs. Laissez-moi seul, si vous pouvez. Mon parfum? Chandelle. Paris.
Oh putain, on va faire un carton! Alors, normalement, un 2 janvier, il n'y a personne dans les grands magasins. Et par esprit de contradiction, c'est là que nous emmène Guillaume Meurice, bien sûr.
Mais oui, et pas n'importe quel grand magasin, le Bon Marché. Vous connaissez Charline Américaine?
J'y fous jamais les pieds, honnêtement.
On vous y voit pas souvent. C'est ce qu'on reproche. Très chic magasin de la capitale qui avait décidé de choisir le punk comme petite, mise en abîme des choses. Ils ont mis des tableaux punk, des choses punk. Et Guillaume, il s'est dit, mais ils ne sont pas punk, ces gens. Alors je vais les ennuyer. Ça n'a pas raté.
Je vais vous parler de nos futurs aujourd'hui. Alors je ne parle pas de l'avenir du préfet qui gère la crise à Rouen, même si sa carrière est quand même clairement sur un nos futurs aussi. Mais je vous parle d'une expo sur le punk qui a lieu en ce moment même à Paris au Bon Marché. Alors le Bon Marché, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un magasin qui porte hyper bien son nom. Pas vraiment Bon Marché, quoi. En gros, c'est comme si Alex s'appelait sobriété médiatique. Voilà. Ça n'a aucun sens. Si vous faites vos courses là-bas, vous devez vendre vos enfants pour les nourrir. Donc c'est quand même toujours un petit peu dommage. Mais ils ont décidé de faire un événement autour de la culture punk. Alors, c'est un magasin qui appartient au très punk Bernard Arnault. Hein, on le connaît, le streamer de LVMH. Alors, d'habitude, avec ce genre de magasin, il faut passer par des services de presse, il y a les chargés de com, tout un tas d'intermédiaires. Mais là, c'est le punk. Hein. On brise les règles, on nique tout. Donc je suis avec mon micro là-dedans. Alors, comment ça se passe? Ah, il est où le pogo? Comment on fait? Est-ce qu'on pète des macarons la durée qui valent un SMIC? Enfin, voilà, comment ça se passe? On m'a dit, tu te calmes. Pose ce micro délicatement sur le sol. Et puis, voilà, je suis passé par un service de presse et j'ai quand même eu la chance de pouvoir parler au téléphone avec Jennifer Cuvillier, qui est la directrice du style au Bon Marché. Il y a une directrice du style, c'est Jennifer. Alors, première question, est-ce que le Bon Marché, c'est punk?
Pas Le Bon Marché est complètement punk. En tout cas, on a voulu célébrer toute la philosophie et l'état d'esprit punk avec toutes ses réinterprétations, ses tendances, son attitude, son état d'esprit. Et donc, pendant au moins ces deux mois, le Bon Marché est so punk.
Ah oui, il n'est pas seulement punk, il est so punk. C'est d'ailleurs le titre de l'expo avec un programme de dingue. Alors, il y a un bar à piercing, par exemple. Il y a des photomatons où on peut prendre des photos punk. Il y a même une cabine d'enregistrement avec une guitare où on peut enregistrer une chanson. On peut vraiment chanter n'importe quoi, n'importe comment. Alors attention, parce que c'est un coup à finir dans la playlist France Inter, c'est toujours un petit peu dommage. Mais c'est ça, c'est l'esprit punk du Bon Marché.
C'est vraiment tout autour de l'état d'esprit et d'un état d'esprit qui est très en fait positif avec l'esprit du no futur que pouvait être, que ça pouvait être dans le passé. Et on l'a vraiment travaillé de manière très yes futur, justement avec un...
Donc vous avez changé le no futur en yes futur.
Exactement.
Ah et ça, très très punk ça.
Bah oui.
Ah bah oui, parce que du coup, ils sont punk vis-à-vis du punk. Maintenant, c'est ça qui est rebelle, quoi. Le punk, c'est vieux. Maintenant, ce qui est rebelle, c'est d'adhérer aux jeunes avec Macron, par exemple. C'est fuguer de chez ses parents, mais pour aller à un meeting de Castaner. Ça, c'est punk. Voilà, enfin, c'est le punk du Bon Marché qui va encore plus loin que ça.
On a travaillé aussi, bien sûr, tout un assortiment avec la grande épicerie, avec la food, tous nos services, nos restaurants aussi ont joué le jeu. On a des menus punk.
Il y a de la punk food.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est alors la punk food?
Alors la punk food, on a fait un bar à vin naturel.
Oh les malades. Oh les malades. Ça c'est vraiment un truc de punk à chien. C'est vrai que normalement c'était les 8-6 qui buvaient les punk à chien. Mais je vois pas pourquoi ils auraient pas le droit eux aussi à du vin naturel et une petite galette de tofu qui coûte une crête. Parce que oui, il y a aussi de la bouffe, hein, bien évidemment.
Des menus punk avec que ce soit des hamburgers un peu spécifiques noirs et roses, que ce soit des desserts. C'est vraiment en fait tout le Bon Marché s'est mis à leur punk.
Et avec des hamburgers noirs et roses, c'est ça le punk. Alors nous aussi à France Inter, on est punk, hein, parce que Laurence Bloch, notre directrice, avait dit soyez punk. Et depuis, on le voit, l'ambiance est punk dans les couloirs, c'est n'importe quoi. Dominique So, il arrive le matin, il a des chaussettes dépareillées. Enfin, c'est une racaille, quoi, le gars. Ouais, et au Bon Marché, c'est pareil. On a même une partie de l'expo qui s'appelle Pink Punk.
On est vraiment sur, quand je dis qu'on se prenait pas au sérieux, on est sur un côté deuxième degré, un jeu de mots. C'est simplement un jeu de mots. Ouais. Pink Punk, on a trouvé ça très drôle et très fun.
Mais c'est marrant. C'est drôle. Mais c'est vrai que Pink Punk, ça sonne bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le Pink Punk?
C'est la partie un peu plus girly peut-être qu'on a voulu dans ce cas-là mettre en avant. Et on a travaillé pour la première fois toute une offre par la couleur. Donc au deuxième étage, vous avez tout un endroit que Pink Punk. Donc c'est que du rose, que ce soit... de la mode, de l'accessoire.
Donc c'est du punk girly.
C'est du punk girly, voilà, exactement.
Et donc c'est girly, donc c'est rose. Hein. Ça, c'est vraiment le truc punk par excellence. Hein. Bam, tu vois, je veux dire, réponds à ça, Simone de Beauvoir, espèce de sale bourgeoise. Hein. Alors attends, la question qui se pose, c'est est-ce que Jennifer, que je suis en train d'interroger, est-ce qu'elle-même est punk?
Je suis forcément punk.
C'est quoi votre groupe de punk préféré?
Écoutez, ça va être Pink Floyd.
Non. Eh ben non, ça c'est un groupe de Pink, voilà. Force de faire des jeux de mots, on s'y perd, voilà. Bon ben voilà, allez voir l'expo quand même, hein, ou plutôt oui, faites un emprunt à la banque et allez voir l'expo avec le Bon Marché. Laissez tomber les clashs, sortez le cash.
Pourquoi et je glissais ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche, pourquoi? Et je glissais ma langue, je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts. Je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Je croisais ta route, qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi et pourquoi? Faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute infinie. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Pas plus le jour que la nuit, c'est le dernier titre dans la playlist d'Alex Baupin que nous accueillons.
Mais oui, on l'a entendu chanter, on va l'écouter parler.
Mais bien sûr, allons-y.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
On va vérifier si vous êtes vraiment Alex Baupin. Depuis le temps qu'on vous attend, Alex Baupin.
Oui, je ne comprends pas pourquoi, mais ça va être très décevant.
Eh bien, non, parce que vous publiez un nouvel album, Pas plus le jour que la nuit, qui est sorti vendredi dernier. Alex Baupin, la presse a très bien accueilli cet album, mais en disant, à 45 ans, vous regardez moins votre nombril et davantage autour de vous.
Oui.
Et pourtant, votre nombril, il a parlé à tout le monde pendant tous les albums précédents. Sinon, vous seriez pas là, finalement.
C'est vrai, mais j'ai senti une légère lassitude sur le dernier album, et je me suis dit, tiens, il va falloir que j'arrête de geindre sur moi-même.
Des gens ou de vous, la lassitude? Excusez-moi.
De moi, et puis peut-être un peu des gens. Si les gens, je sais pas, je me rends pas compte, je fais pas encore de sondage IFOP sur l'accueil de mes chansons dans la population française.
Il y avait lassitude, les gens le disaient.
Et ben voilà. Et donc je me suis dit, pour que ça soit un peu moins triste, je vais parler de l'état du monde. C'était pas ma meilleure idée, pour que ça soit un peu moins triste, en fait.
En tout cas, il est moins autobiographique que les autres. Mais vos chansons, effectivement, parlent du monde, enveloppent l'époque et racontent des histoires. Alors, est-ce que votre album aussi, le dernier titre de l'album s'appelle Poussière lente, où le monde disparaît, est-ce que c'est aussi un album, comme vous racontez des histoires, un album où il y a un début et une fin?
Ah bah oui, le début c'est la fin d'une histoire d'amour et ça se termine par la fin du monde. C'était pour montrer mon parcours à moi, je me disais voilà, je parle que de moi, donc je parle de mes histoires sentimentales, mais regardez, comme je suis ouvert, à la fin je vous parle du fait que non seulement moi je vais finir mes amours, mais vous allez tous mourir avec moi. Ce qui est plutôt satisfaisant pour un chanteur en fait, cette histoire de fin du monde, pour tout vous dire.
C'est vrai? Pourquoi c'est...
Bah parce que moi j'ai toujours été terrifié par l'idée que j'allais mourir et que je trouvais ça injuste. Pourquoi moi et pourquoi des gens allaient continuer après moi à vivre des choses formidables? Donc l'idée que tout s'arrête en même temps que moi.
Il y a un soulagement.
Non, c'est pas vrai, parce que je trouve ça horrible pour les petits qui viennent derrière. Nous on en a bien profité et maintenant on leur dit allez à l'école alors que c'est la fin du monde. Donc non, je trouve ça horrible, mais...
Ça va bien en ce moment, Baupin.
C'est-à-dire que c'était à nouveau, c'était cette idée de me dire, tiens, je vais raconter ce qui se passe autour de moi, ça va m'ouvrir un peu l'esprit, ça va me faire du bien. Puis du coup, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Et je me suis... Ben, vous savez, c'est l'histoire de... Vous connaissez l'histoire de Picasso. Voilà, le type se compare à Picasso dès la démission. Je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est Picasso qui est devant la toile Guernica pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis un officier allemand lui dit, c'est vous qui avez fait ça, c'est affreux. Il lui répond, non, c'est pas moi, c'est vous qui avez fait ça.
C'est Picasso.
Donc vous, c'est le monde qui est responsable de votre état d'esprit. C'est ça que
c'est
vous voulez
le
dire.
Monde qui est responsable de la tristesse de mes chansons, en tout cas.
Et les nazis.
Je parle de lui, ouais. Et en plus, ouais.
Et une histoire de nazis.
Globalement, tout ce qui est nazi, bien sûr.
Alex Baupin, votre album s'appelle Pas plus le jour que la nuit. On a écouté le single Cours Camarade sur France Inter en amont. Et puis, je pense que le prochain, c'est Pas plus le jour que la nuit, c'est ça. Donc, vous avez tourné le clip. On aime beaucoup cet album. On est fan de vous. Donc, on préfère prévenir les auditeurs qu'on ne va pas être objectif. Voilà, on va pas être objectif.
Je suis fan de moi.
Allez, on aborde un premier sujet plus lourd qu'on a choisi pour vous. L'attentat de la préfecture de police de Paris s'est produit au cœur du réacteur de ceux qui sont censés nous protéger. Le tueur était un fonctionnaire qui plus est habilité secret défense. Et bien qu'il présentât des signes de radicalisation, il continuait à travailler tranquillement comme informaticien au service du service de renseignement chargé de détecter quoi ? La radicalisation. L'État a donc été défaillant. Quant à Castaner, et bien il tente tant bien que mal de répondre, de reprendre les choses en main.
Alors écoutez bien ce que je vous dis. La base est mise sur le pied d'alerte rouge.
Alerte rouge, oui, excellente idée, ça réveillera un peu le personnel.
J'ai bien peur que ce ne soit pas un exercice, colonel.
Ce n'est pas un exercice ?
J'ai été alerté par le téléphone rouge. On m'a donné l'ordre de mettre la base au secret et de couper toute relation extérieure.
Vous en allez à ce point-là ?
Autre chose, et c'est peut-être le plus important. Je veux que tous les postes à transistors soient immédiatement confisqués et mis sous clé.
Bien, mon général.
Ils pourraient être utilisés pour donner des indications aux saboteurs.
Docteur Folamour, le film de Stanley Kubrick. Alors je disais, on a choisi ce sujet pour vous parce que vous êtes emparé.
J'aimerais bien savoir.
Vous êtes radicalisé récemment. Mais vous revenez d'une tournée en Syrie qui s'est plutôt bien passée.
Vous êtes emparé avec talent de ces sujets-là sur votre dernier album puisqu'il parle plus de l'époque. On va y venir, mais d'abord là c'est vraiment ça s'est passé au cœur du dispositif qui est censé protéger la population et protéger finalement notre quotidien. Est-ce qu'on a appris à vivre avec toutes ces choses-là? Est-ce qu'on a intégré de montrer patte blanche à l'entrée de tous les bâtiments, de se faire fouiller, d'ouvrir nos sacs, nos valises, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on profondément on vit avec au quotidien?
C'est compliqué votre question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas appris à vivre avec la dignité qui s'impose après des attentats. J'ai l'impression qu'au moment de Hollande, en tout cas après Charlie Hebdo ou après l'attentat du Bataclan, il y avait une espèce d'unité nationale, comme on dit, qui n'était pas désagréable. Moi, je ne suis pas du tout fan de Castaner, hein, loin de là. Enfin, ce gouvernement me fait rigoler quand je suis en forme. Et pour le reste, voilà. Mais qu'immédiatement, après cet attentat, les premières choses qui se passent, c'est démission Castaner, ou qu'après l'attentat de Strasbourg, en disant, quand même, ça arrange bien Macron qu'il y ait cet attentat à Strasbourg, j'ai l'impression, ça permet d'interdire les gilets jaunes. Tout ça m'inquiète un peu sur l'état de santé mentale de notre personnel politique et de nos concitoyens, voilà. Pour le reste, ouvrir son sac et passer par des portiques de sécurité, j'ai pas l'impression de le faire beaucoup plus qu'avant, non? Vous avez vraiment l'impression.
On travaille à Radio France, hein, donc il faut vous dire.
Ici, on le fait. Vous êtes des vedettes, alors vous passez dans les portiques. Si, en arrivant, j'ai vu Alex Vizorek qui passait outre toutes les consignes de sécurité en courant, voilà.
C'est un sujet dont vous êtes emparé. Il y a un titre Orlando sur l'attaque terroriste de 2016 dans une boîte gay en Floride. Et il y a Les Sirènes aussi. Vous n'écrivez pas le mot d'attentat, mais Les Sirènes évoquent cette barbarie qu'on
métaphore,
vit.
Métaphore, ouais. Mm-hmm.
Comment est-ce qu'on fait pour être à la hauteur dans deux chansons? Je dis, vous êtes vraiment emparé des sujets de ces sujets avec talent, mais comment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé à la hauteur et qu'on peut lâcher le texte et la musique?
Il y a un peu toujours une question de dignité dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on fait des chansons dignes sur des sujets qui sont compliqués? Moi, je crois que le seul truc que je pouvais faire, c'est laisser passer un peu de temps, en fait, déjà. C'est-à-dire que, sur le coup, quand on est en état de sidération ou de colère, on peut mettre trop de pathos ou se mettre soi-même en scène dans une espèce de colère qui pourrait être un peu obscène par rapport à ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai déjà dû laisser passer du temps. Dans le précédent album, j'avais écrit des chansons sur les attentats que je trouvais vraiment pas dignes. Ouais, c'est le seul mot que je trouve. Et donc, en laissant passer du temps, j'ai l'impression que j'étais plus à même d'aborder les sujets. Et puis, pour ce qui concerne Orlando, par exemple, c'est une chanson qui est extrêmement factuelle, en réalité, dans laquelle j'essaye de donner une espèce de point de vue, mais uniquement dans les refrains, qui sont pas des refrains, parce qu'ils sont tous différents, effectivement. Mais l'idée, c'est de... Je sais pas comment on fait ça. Moi, j'écoute la chanson et je me dis que si elle est pas trop pathos, ou si je me mets pas trop en scène dans une espèce de colère feinte ou d'indignation qui serait un peu démagogique et ridicule, déjà, j'ai beaucoup pensé à Barbara quand j'écrivais ces chansons, alors ça se la pète, mais moi, j'avais en tête une chanson comme Göttingen, par exemple, où je trouve que tout en écrivant des choses qui sont de l'ordre de la poésie, on peut aussi avoir un petit engagement et quelque chose qui est... Ouais, qui est digne.
Orlando est hyper ciselé sur le texte. Nous, quand on fait des vannes sur des sujets compliqués, on essaye de faire très attention et de le relire à trois fois et de pas être mal compris à trois fois. Est-ce que vous aussi, quand vous vous attaquez à un sujet comme celui-là, vraiment, vous y mettez peut-être plus de cette qualité d'écriture?
Bah, je suis obligé parce que c'est pas des choses que je faisais naturellement avant. Je me suis forcé à le faire sur cet album, donc évidemment je suis peut-être plus attentif.
C'était déjà pas mal écrit avant.
Non, mais j'écrivais pas sur ce genre de sujet. Enfin, c'est-à-dire que curieusement, quand j'écris sur moi, je peux me permettre l'obscénité et l'impudeur parce que ça ne concerne que moi, voilà. Et j'écris des chansons d'amour, des chansons plus explicitement sexuelles qui peuvent être crues et ça me dérange pas parce que c'est que moi que ça implique. Effectivement, sur ces sujets-là, j'essaye de me relire plus trois fois que deux, quoi.
Et ça finit par « J'espère que la terre vous est douce, qu'elle vous console, qu'elle vous tient chaud. J'espère qu'un peu de fleurs y pousse à Orlando. » Je me permets de le citer parce que vous m'avez arraché une petite larme à la fin de cette chanson. Alex Baupin, pour votre nouvel album. Eh ben voilà, on va passer à Hippolyte Girardot alors.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois que c'est une bonne transition.
Pourquoi pas. On le savait. On le subodorait, mais on n'en avait pas encore la preuve. Mais cette fois, c'est fait. On a enfin, en la personne de Meurice Guillaume, ici présent de son état civil, un pur produit marxiste-léniniste. Eh oui. On rappelle quand même que pour Lénine, la prise de conscience par la classe prolétarienne de sa situation d'exploité ne pouvait s'opérer que par la propagande. Celle-ci devait s'effectuer donc dans tous les domaines, y compris la culture, théâtre, cinéma, littérature, et aujourd'hui, grâce à Guillaume, la radio. Je ne suis pas certain que le prolétariat au sens strict du terme ait été visé, mais une certaine catégorie l'a été. Je parle des punks. Alors, je rappelle l'histoire. Le Bon Marché célèbre le mouvement punk pendant deux mois. C'est à peu près aussi ridicule que Stéphane Bern faisant une émission sur la paysannerie médiévale, ou moi-même, par exemple, tentant d'expliquer la fragmentation chromatique. Voilà. C'est ce ridicule que la chronique de Guillaume a évidemment pointé du doigt rouge de son micro. Et alors, hier, des punks authentiques, alertés par la chronique de Guillaume, ont fait un sit-in devant le magasin du Bon Marché. Oui, oui, c'est vrai, c'est tout à fait authentique. Manifestant justement leur authenticité face à la récupération, ils ont pacifiquement occupé un bout de trottoir en buvant de la bière et en chantant quelques chansons sympathiques. Bon bref, nos punks du 7e n'essayèrent pas de pénétrer dans le royaume de LVMH, là où l'épingle la nourrice so punk, comme ils disent, coûte le salaire du vigile qui la garde. Et évidemment, il y avait un risque, évidemment, pas si con. Pas celui de se faire attaquer à coups de cassette de Johnny Rotten ou Paul Simonon, non, celui de passer justement inaperçu. Leur costume, leur inventivité, leur authenticité même auraient été vues comme une excellente idée commerciale. Les clientes et clients auraient loué la trouvaille de faire porter par des mannequins vivants ce qui était exposé en vitrine. Voilà, nos punks auraient pu partager de la 8-6 avec des japonaises qui auraient fait des selfies. Même les vigiles payés le prix de l'épingle à nourrice auraient donné l'impression de parfaire l'image rebelle du punk en leur tapant dessus. Et le slogan du Bon Marché en ce moment, le fameux TBM, aurait pris un nouveau sens. Moins très bon marché que très bien monté. Comme on le dit de certains ici et ailleurs, mais aussi d'un spectacle réussi. Ces punks du dimanche ont bien fait de rester dans la rue, car il faut se méfier avec le capitalisme. Toujours en avance sur le reste des autres systèmes, et toujours capable de recycler en objet de consommation à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, même la chanson Révolution pour une marque de chaussures dont la devise devrait être « Just fuck it ».
Non, on va pas la chanter.
Révolution. Je vais le faire.
Okay. Merci, Hippolyte Girardot. Et c'est vrai, Guillaume Meurice est créateur de tendance, de city, dans Paris. Voilà.
Le cours de la 8-6 est en hausse, à la Bourse de Paris.
C'est-à-dire que si vous n'allez pas couvrir une manif, vous la créez. C'est ça qui est beau.
Mais on les salue, autant le Bon Marché qu'à
très bon esprit. Ouais.
Alex Baupin avec nous. Allez, on va aborder encore ce thème plutôt musical. Notre playlist trahit notre âge. Les sites de streaming permettent de recenser les 100 chansons les plus écoutées par chaque génération et d'en tirer des conclusions comme les chansons écoutées par les baby-boomers sont plus joyeuses et plus longues que celles écoutées par les moins de 25 ans. Cependant, il y a des exceptions. Il y a la playlist d'Alex Vizorek, par exemple.
Tout de suite, puisqu'on parle de voix, on va écouter... Elle est où la caméra, hein? Tintin, elle est où? Là, c'est celle-là. Alors, on va écouter Gertrude Balu. Et vous la connaissez, Gertrude, parce que Gertrude, elle est venue... presque aussi souvent que Cora Vauquer. Alors, vous la connaissez. Alors, Gertrude, c'est Paris fait moi Guilly, c'est la rue des Alouettes, hein, l'Alcazar, c'est Dranem, Damia, tout ça, c'est une grande époque, l'époque où on chantait. Et quand je dis on chantait, on faisait pas tralala, tralala, tralala.
Il y avait des refrains.
Les inconnus, bien sûr. C'est beau de les réentendre. C'est un article que nous avons trouvé sur un site d'information suisse, 24h.ch. Si on regarde votre playlist, Alex Baupin,
oui, sur Spotify,
vous avez quel âge?
Je crois que ça traduit surtout mon état d'ébriété. Non, mais parce que Spotify, moi, je l'utilise, vous savez, si c'est soirée, on est un peu souple et on dit, ah, on se passerait bien des trucs. Et puis, à la fin, moi, mon Spotify, il est très simple. Je pense qu'il y a des journalistes qui demandent ça, qui disent, ah, on aimerait bien aller faire un tour dans votre iPod, tout ça. Moi, je dis toujours non.
Surtout
c'est hors de question. Parce que, en période où des journalistes m'interrogent, c'est quand je vais sortir un album. Donc, généralement, je réécoute tous mes albums pour savoir quelles chansons je vais mettre dans mes concerts. Donc, soit je suis complètement, enfin, égocentrique, je m'écoute moi toute la journée. Soit le soir, pour me détendre, je fais des soirées avec des amis, on écoute des chansons. Enfin, c'est l'intégrale de la bande à Basile, des trucs un peu, vous voyez ce que je veux dire.
Jean-Pierre
François. Donc, en l'occurrence, ça traduit plutôt, ouais, c'est ça, mon état d'ébriété, mon narcissisme, que mon âge, je pense.
Alors, la génération Z, les moins de 25 ans, écoute de la musique avec peu de gaieté. Il y a des schémas, donc c'est dans cet article.
C'est avec peu de gaieté.
Ouais, des chansons tristes. Des chansons tristes. Il y a un indice de gaieté.
Ça veut dire ça, en fait.
Ouais, des chansons tristes. Et c'est un point commun avec la génération des gens qui ont 40 ans, la génération X, la vôtre, la nôtre. Est-ce que ce
mais
constat...
plus courte, c'est ça?
Alors non, ça c'était pour les baby boomers. Mais sans doute elles sont plus courtes parce qu'elles sont formatées radio.
Oui, c'est ça.
Donc
en fait.
C'est vrai que, ouais, effectivement.
C'est les personnes plus âgées qui écoutent des trucs.
Donc, oui, les baby boomers, alors, ça s'explique par.
L'accordéon déjà, c'est plus.
Allez, yé, tout ça.
L'accordéon. Non, c'est pas, plus on est âgé, plus on écoute l'accordéon. Je me dis,
la vie plus facile quand même.
Non, c'était les baby boomers. Oui, les baby boomers, c'était. Oui, c'était. C'était la folie, quoi.
C'était les yéyés, c'était la variété, c'était tout ça.
Vous avez cité Barbara tout à l'heure en disant « je me compare humblement ». C'est qui les quelques au panthéon de la découverte musicale d'Alex Baupin?
Ah bah Souchon, dont je parlais tout à l'heure, mais moi c'est surtout un type comme Étienne Daho, parce que c'était mon chanteur à moi. Et chez moi, quand j'écoutais Étienne Daho, mes parents trouvaient ça vraiment, c'était le top de la rébellion. Vous imaginez chez moi d'écouter Étienne Daho, parce que j'écoutais Renaud, ça pour mes parents c'était très admissible, ils comprenaient, t'étais de Brassens, mec de gauche, tout ça, machin, ça super. Mais alors Étienne Daho, quand j'écoutais ça, on comprend rien à ce qu'il chante, il a pas de voix, il raconte des trucs de boîte de nuit, enfin il trouvait ça vraiment très très... Donc c'est sans doute lui, ouais, Daho, Souchon, puis quand même un peu de Gainsbourg et de Bachung, parce que c'est bien.
Et Jacquenot, j'ai vu.
Oui, Jacquenot, parce que ça racontait une époque que j'aurais aimé vivre. Ça, c'est la nostalgie des époques qu'on n'a pas vécues, je crois.
Alex Baupin, vous connaissez l'émission?
Ouais, c'est un truc qui m'intéresse le plus.
Oh, c'est pas vrai,
parce
on s'est dit, on va
patate,
le faire.
Mais vrai, non. Vous allez voir.
Et au club, on vous a pas donné n'importe quel rôle, vous êtes André Manoukian.
Merde.
Parce que André fait son spectacle aujourd'hui, on s'est dit, il aurait aimé être invité pour parler.
Spectacle.
Il fait un spectacle.
Sur le Périnée.
Sur le champ du Périnée. Et donc, il aurait aimé être invité dans l'émission. On est tous les trois, on se lance, vous êtes André Manoukian.
André Manoukian, bonjour.
Bonjour, mais je suis dans quelle émission là?
On est sur France Inter.
Ah, et elle est où Léa Salamé?
Non mais on est dans Par Jupiter, André, là.
Pardon?
Bah l'émission à laquelle vous participez
Enfin, parfois quoi, Par Jupiter.
Je connais pas.
Oui, voilà, vous démarrez votre spectacle ce soir, André, vous êtes un petit peu tendu?
Non, vous savez, la tension est le nerf qui part du plexus et qui renvoie des ondes positives ou négatives. Il s'agit d'un balancier dont la négation renforce la positivité.
Mais qu'est-ce qu'il dit?
Oui, André, bien sûr, bien sûr.
Bah, c'est simple, c'est comme votre respiration. En éjectant l'air, vous repoussez la tension permanente qui agite vos bronches et c'est ainsi que vous détendez votre œsophage. Guy Debord a dit ça.
Debord, il a dit ça. Mais ensuite.
J'ai pas compris.
Oh là là, mais quelle arnaque ce mec.
Mais pourquoi il dit ça, Guillaume?
Mais vous réalisez bien que ça veut rien dire, ce qu'il vient de vous répondre. Là, il bluffe totalement.
Non, pour moi, c'était très clair, pardon.
Bon, il y aura quoi dans ce spectacle?
Ce spectacle, c'est l'expression vocale de mes tripes animée dans une ambiance musicale d'un clavier à cordes frappées. C'est entre Marc Dorcel et Jean-Sébastien Bach.
C'est Bach Dorcel.
C'est ça.
Ouais. Non, mais attends, mais là, il dit juste qu'il va parler en jouant du piano. Enfin, c'est un peu ce qu'il fait depuis toujours, quoi, en fait. Donc,
Oui, ok, d'accord. Oui.
Vous avez collaboré avec les plus grands, André Manoukian. Charles Aznavour, Janet Jackson.
Yann Folie aussi.
C'est vrai.
Cyril Hanouna aussi.
Oui, mais vous savez, les nouilles dans le slip, c'est toute l'angoisse de l'homme moderne. C'est l'expression mystique de l'amour.
Ah, d'accord.
Nietzsche parlait de surhomme. Hanouna s'attaque au sous-homme et sa petite nouille.
Ah, mais donc il déraille, là.
Dans la tribu des Honchoux, les hommes offrent des nouilles.
Non, oui, mais ça va, on a compris. Alors. Et sinon, vous allez parler un petit peu d'actualité dans le spectacle, André?
Mais évidemment, vous savez que l'actualité m'anime et me passionne. Je suis comme les aborigènes de Tuan Tzu.
Tuan Tzu, mais ça existe même pas.
Ouais, mais ça sonne vachement bien.
Bon, alors dernière question. Au niveau musical, est-ce que vous avez un coup de cœur en ce moment?
J'ai des coups de cœur en permanence.
Ah, donc vous aimez par exemple le nouvel album d'Alain Souchon?
Je vais venir un truc. Ah non, on a dit de la musique.
Non, le dernier Alex Baupin peut-être?
Baupin, faut pas exagérer quand même.
Il est celui qui me console à chaque fois du fait qu'on arrive à la fin de l'émission, Alex.
C'est pas faux. Et parfois, il ne vient pas seul. Il nous a fait quelques jolis duos cette année. Et là, peut-être l'un des plus beaux. Enfin, ce que je préfère, avec Flavia Coelho. Il chante Bolsonaro.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement facho, ce mec-là. Complètement fada. Il n'aime pas les noirs, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Faut voir comment il traite les nanas. Il n'aime pas les pédés, ce gars-là. Et il est fier d'être comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il est pour le port d'armes, ce mec-là. Comme aux USA. Il a bu trop de caipirina. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Il en a rien à foutre du climat. Comme on dit au Brésil, il s'en va. C'est pas une blague, il a dit de moins faire caca.
Plutôt que de mépriser les peuples indigènes, les gauchistes, les écolos et les beaux faire des graines. On se trompe, mais faut pas cramer l'Amazonie. Mais par exemple, l'agrobusiness, la pétrochimie.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Poupouloulouloulou. Complètement barjo, ce mec-là. Rien dans la cabessa.
Un vrai militaire, ce type-là.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a?
C'est que si c'est ordurier, c'est pourquoi
il pourrait chroniquer ce gars-là. Chez Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Poupouloulouloulou. Complètement dingo, ce mec-là. Et il est chef d'État. Mais il est catholique, donc ça va.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a?
Avec Brigitte Macron, oulala.
Je suis désolée, hein.
Il pourrait pas écrire dans le gala.
Ni Voici, ni Closer, France Dimanche, Paris Match.
Voilà ce qui se produit quand on bat 3-0. Le Brésil, on se fait tacler par Bolsonaro, qui a une grande bouche comme le chef Raoni. Sauf que Bolsonaro s'en sert pour dire que des conneries.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là?
Complètement cinglé, ce mec-là. Pas du tout Flavia. Et oui, l'extrême droite, c'est comme ça. Le Pen, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Quand il s'en ira, on le regrettera pas.
Non, non, non.
Bravo! Merci infiniment. Demain, nous vous donnons rendez-vous pour le dernier florilège, Alex.
Oh là là, enfin, en même temps, ça veut dire qu'on revient bientôt.
Ça revient, oui, bien sûr. Lundi, on sera en direct. Mmh. En attendant, demain, on va réécouter Yannick Agnel, oui, l'ancien nageur.
Nage très bien, ce gars-là.
Et Daphné Burki.
Oui, présente très bien les émissions, elle.
Et qui présente très bien les émissions. Ils font très bien les choses.
Font très bien.
Généralement, quand on invite des gens,
c'est des gens brillants.
Ils font des choses très bien.
À demain.